Bonsoir. Après la défaite du M23, le chef de l'État a entrepris une tournée depuis la semaine dernière dans l'est de la RDC. De l'Ituri à Goma, en passant par Beni, Lubero, Rutshuru et Nyiragongo, Joseph Kabila a notamment invité les jeunes à se désolidariser des groupes armés, à ces derniers à déposer les armes. Il a aussi annoncé des projets de développement pour ces zones longtemps affectées par la guerre. Quelle analyse faire de la tournée du chef de l'État dans l'est de la RDC? Nous en parlons avec Didier Mauricio, il est député national et secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle. Bonsoir Didier Mauricio.
Bonsoir.
Professeur Arsène Mouaka, il est député national de l'opposition et cadre du parti politique DCFN. Bonsoir professeur Arsène Mouaka.
Bonsoir.
Et maître Jean Morbert Nsenga, il est avocat et analyste politique. Bonsoir maître Jean Morbert Nsenga.
Bonsoir Alain, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Capi.
Plusieurs réactions dans cette émission, dont celle des fidèles Mogadiscio en province orientale. L'appel lancé par le chef de l'État aux jeunes du Nord Kivu de se désolidariser des groupes armés est une bonne chose. Cependant, donner de l'emploi à ces jeunes est un moyen durable pour garantir une paix perpétuelle dans cette région du Kivu. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Dans la suite de sa tournée, le chef de l'État est arrivé dans la ville de Goma le samedi dernier et là, il a présidé un conseil spécial des ministres avant de s'adresser à la population. À l'étape de Beni et Lubero, Joseph Kabila a appelé la population de ces territoires à sensibiliser les jeunes pour qu'ils se désolidarisent des groupes armés. Appel lancé jeudi dernier à Butembo, 300 km au nord de Goma, lors de son adresse à la population, en présence notamment des responsables des partis politiques et de l'opposition et de la majorité. D'après Joseph Kabila, plusieurs jeunes qui travaillent avec les rebelles ougandais des ADF Nalu, les rwandais des FDLR et d'autres groupes armés locaux doivent déposer les armes pour s'inscrire dans la logique de la paix. Écoutons les propos du chef de l'État, Joseph Kabila, recueilli par Martial Papi Mukeba.
La guerre que nous vivons est causée par des groupes armés qui perturbent la paix de la population. Il y a des ADF Nalu à Beni qui enlèvent les populations civiles. Ils sont appuyés par nos jeunes. Il y a aussi les groupes des FDLR qui créent la désolation au sein de la population. Eux aussi sont soutenus par des groupes de jeunes. Ils ne gagneront aucune guerre contre la RDC. Plusieurs groupes armés qui sont actifs dans la province du Nord Kivu commencent à déposer les armes. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, je lance encore un appel pour qu'ils déposent les armes. Mais je veux qu'ensemble, nous puissions sensibiliser, conscientiser ces groupes armés pour qu'ils déposent les armes. Ceux qui vont refuser, nous avons la capacité de les neutraliser. Et par rapport aux tracasseries de la population, c'est une situation à laquelle nous mettrons rapidement fin.
Didier Mauricio, je rappelle que vous êtes député national et secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle. Parlons d'abord de la forme. Le chef de l'État effectue sa tournée au volant de son véhicule, traversant des zones où sévissent les groupes armés et il emprunte même des routes en très mauvais état. Y a-t-il un message particulier que Kabila cherche à faire passer en procédant de cette manière?
Merci pour l'occasion que vous m'offrez de débattre de cette question. Je crois que c'est un symbole que le chef voudrait montrer par le fait qu'il se déplace lui-même au volant de sa Jeep. C'est pour dire que cette région est sécurisée et c'est pour inviter les gens à circuler dans cette partie de la République. Parce que vous voyez sur le plan de sécurité, si vous êtes vous-même en train de conduire un véhicule, c'est différent de être dans un cortège où vous ne savez même pas où vous êtes. Et là, le chef de l'État montre que la région est pacifiée et que les gens peuvent circuler normalement.
Et donc c'est un message selon lequel tout va bien.
C'est un message selon lequel la situation a sensiblement changé.
Dans le discours qu'il tient à toutes les étapes de cette tournée, il appelle les jeunes à pouvoir se désolidariser des groupes armés. Comment vous analysez cet appel du chef de l'État, Joseph Kabila?
Je crois que, comme on l'a dit si bien, le président de la République, c'est le chef de l'État, c'est le père de la nation. Comme un père, il en appelle à la conscience de tous les jeunes. Parce que on ne peut pas mener une guerre dans un pays sans qu'il y ait complicité interne. Et toutes ces rébellions ou tous ces troubles qui ont été semés dans cette partie de la République ont trouvé écho auprès aussi des populations de la région, les jeunes qui ont été soit enrôlés des forces ou se sont enrôlés eux-mêmes volontairement. Et c'est à ces jeunes-là que le président de la République adresse ses messages, à tous les notables, le sage de la région, pour qu'ils interpellent le jeune. Parce que si les jeunes n'acceptent pas de donner leur soutien aux rébellions, je crois que les rébellions ne vont pas durer longtemps.
Il y a des experts qui pensent que ces jeunes sont, pour la plupart, comme vous l'avez dit, enrôlés des forces dans ces différents groupes armés, et qu'ils seraient même quasiment otages des leaders de ces groupes armés. Et croyez-vous que ces jeunes ont la possibilité, n'est-ce pas, de se désolidariser tout simplement, en fait, de se désolidariser de ces groupes armés, tout simplement parce que le chef de l'État a lancé cet appel?
Je pense que le fait de prendre conscience que ces pays ne peuvent être défendus que par le fils de ces pays, il en appelle pas seulement à se désolidariser, mais à être vigilant. Parce que le problème qui est là, pour qu'on en arrive à une situation de guerre, ça veut dire que le bruit ou les informations circulent dans la région. Les jeunes sont parmi les populations les plus actives qui sont au courant des mouvements qui se remarquent dans la communauté. Ils doivent être vigilants et porter l'information aux responsables qui pourraient prendre des dispositions. Donc le jeune doit jouer le rôle d'avant-gardiste pour essayer d'assurer la sécurité au niveau de la région.
À l'étape de Rutshuru, Joseph Kabila a exprimé sa compassion, n'est-ce pas, à la population suite aux affres de cette guerre causée par les M23 et demande que le reste des groupes armés se rendent, sinon il va, donc l'État congolais va les contraindre à pouvoir se rendre. Et la problématique des groupes armés s'explique par beaucoup de facteurs, notamment l'absence de l'autorité de l'État dans certaines localités de la RDC, mais aussi il y a la pauvreté. Vous pensez que les conditions sont réunies aujourd'hui pour que ces groupes armés puissent disparaître?
Si vous avez bien suivi le message du chef de l'État, il a été clair. Pendant que cette région était confrontée à la guerre, on ne pouvait pas lancer les programmes de développement. Et je pense que c'est en lançant des programmes de développement qu'on peut résorber le chômage des jeunes, qu'on peut amener ce jeune à trouver autre chose que à se livrer à aux tout venants qui viendraient leur faire miroiter un avenir meilleur en disant si vous vous enrôlez dans tel ou tel groupe, vous allez gagner facilement votre vie. Je pense que maintenant que la guerre est terminée, il faut qu'on commence de projets de développement et donner du travail aux jeunes. Moi, je pense que le fait de donner du travail aux jeunes pourrait nous amener à aller vers une guerre et une paix durable.
Il y a le secrétaire général adjoint des Nations Unies, M. Hervé Latsous, qui annonce la mise en œuvre des drones de surveillance aérienne, un outil essentiel selon lui pour progresser sur le plan militaire. À votre avis, cette annonce pourrait avoir quel impact sur les processus de reddition de ces groupes armés?
Moi, je pense que c'est une annonce qui est assez dissuasive. Et je pense que le fait d'annoncer qu'on va lancer les drones pour la surveillance des frontières et la surveillance des mouvements de personnes, ça va dissuader les gens. Et je crois que dans le jour et le mois qui viennent, on va assister à la reddition de tous les groupes armés.
Parmi ces groupes armés, il y a des groupes qui sont des groupes armés étrangers. On cite les FDLR, les ADF Nalu, les FLN, Burundi. L'on pense que, ça c'est des experts hein, qui pensent que l'approche proposée par le président tanzanien pourrait être la plus efficace, qui propose que le Rwanda et l'Ouganda puissent, n'est-ce pas, initier un dialogue avec leurs différentes rébellions.
Oui, ça c'est l'avis de pratiquement tout le monde. Si on le fait avec la République démocratique du Congo, et aujourd'hui nous allons vers une situation de paix, et on suppose que si les Rwanda, les Burundi, l'Ouganda procédaient de la même façon, on ne pourra qu'aller vers la pacification de toute la région. Parce que nous ne pouvons pas espérer avoir la paix dans la région si dans les autres pays, on n'arrive pas à rétablir les climats de paix. Les climats de paix, le climat de réconciliation. Parce qu'au Congo, nous fournissons des efforts énormes pour réconcilier les uns les autres, pour mieux vivre dans notre pays. Il faudrait que, une fois que nous au Congo, on a résolu nos problèmes, que les autres résolvent leurs problèmes pour que nous ne soyons pas toujours, parce que le Congo trouve ses problèmes, la cause de ses problèmes par d'autres pays. Vous savez que la situation que nous vivons aujourd'hui, elle remonte à la guerre du Rwanda qui a déversé de Rwandais au Congo. Et c'est, nous sommes en train de gérer ces situations. En fait, nous sommes en train de vivre des situations qui sont créées par d'autres pays. Si on résout le problème dans d'autres pays, je pense que ça pourra ramener la paix au niveau de toute la région.
Alors, si vous estimez que l'approche proposée par le président tanzanien, c'est un avis qui est partagé par tout le monde, quels sont les efforts que le gouvernement congolais, n'est-ce pas, fournit pour amener ces différents pays, notamment le Rwanda et l'Ouganda, à pouvoir accepter de parler avec leurs différentes rébellions?
Bon, les efforts que le Congo fait, c'est d'abord le président de la République qui participe à toutes les réunions au niveau de la région pour travailler dans le sens de la pacification, et tous les efforts internes qui montrent que au niveau du Congo, on arrive à se réconcilier, et donc les autres peuvent aussi arriver à se réconcilier au niveau de leur pays.
Merci, professeur Arsène Mouaka. Je rappelle que vous êtes député national de l'opposition et cadre du parti politique DCFN. Je vous pose la même question que j'ai posée à l'honorable Didier Moluchot. Le chef de l'État effectue sa tournée de l'Ituri à Goma au volant de son véhicule. Bon, peut-être que ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas, mais dans le contexte actuel, cela plutôt pourrait avoir quel sens?
Oui, je voudrais d'abord rappeler que le chef de l'État est dans son rôle. Il est le garant de la nation et il est commandant suprême des forces armées de la République de moitié du Congo. Et donc, quelqu'un qui fait son travail, on ne peut que le féliciter, puisqu'il y a eu une bataille et le pays a gagné. Qu'importe comment le pays a gagné, mais nous avons gagné. Et le chef de l'État ne devait que se déplacer pour aller encourager la population et continuer à donner le message de paix. Nous le félicitons pour cela. Davantage, nous le félicitons puisqu'il se déplace lui-même au volant de sa Jeep. Il conduit lui-même, il voit dans quelles conditions les gens se déplacent dans cette partie de la République. Les routes sont chaotiques, c'est des milliers de véhicules sur la route de Kisangani, entre l'Ituri et Kisangani. C'est des très mauvaises routes entre Bunia et Beni. Plus mauvaise route encore entre Beni et Butembo, catastrophe entre Butembo et Goma, et donc je suis content puisque le chef de l'État a vu et il a lui-même conduit, il a senti ce que les chauffeurs sentent, et donc moi je ne peux que le féliciter, mais je voudrais dire tourner, circuler sur une route et ne pas avoir la chance de rencontrer des coupeurs de route, bon, n'est pas un miracle puisque tout le monde le fait, mais il fallait peut-être rentrer dans des brousses pour se rendre compte qu'il y a encore plein de problèmes, puisque déjà à Ituri, Cobra Matata, c'est pas fini, au nord à Aru, c'est pas fini, entre Beni et Wicha, c'est des enlèvements, les Nalu, les EDF Nalu sont dans la vallée de la Semliki, c'est là qu'il y a des problèmes. nous tous nous circulons sur cette route, ça va depuis longtemps, mais pas plus tard qu'hier. Hier dimanche, on a levé les gens à Moukoko.
Pourtant, l'honorable Didier Moulusso pense que cette façon de procéder, n'est-ce pas, tes messages pour dire que cette partie du pays est pacifiée.
Bon, moi, je suis élu dans les territoires, en fait, dans la ville de Béni, voisine au territoire de Béni. J'ai dit hier, après la Sainte Cène, à l'église 520 de Moukoko, des gens sont sortis de l'église après la communion. Ils ont été enlevés, envoyés en brousse. Donc, c'est sur la route. Et donc, juste pour dire que le chef de l'État allait à Rutshuru où le pays a gagné la bataille, mais le problème est encore entier. Au niveau de l'Ituri, le problème est entier au niveau du territoire de Béni, de la ville de Béni. Les gens sont enlevés et les gens sont en insécurité. Et dans le sud Lubero, il y a des problèmes. Le chef de l'État a donné un très bon message là-bas, puisque là, il a communiqué et il a dit que l'État congolais va s'assumer à face des rébellions étrangères. Bon, mais je crois que à beaucoup d'endroits, les gens sont restés sur leur soif.
Et partout où le chef de l'État est passé, il n'a cessé d'appeler les jeunes à pouvoir se désolidariser des groupes armés. Ces jeunes ont-ils les moyens et la volonté de pouvoir se désolidariser de ces groupes armés?
Bon, je crois qu'on ne peut pas se les cacher. Il peut y avoir quelques jeunes qui ne sont pas nombreux, qui sont peut-être à la solde de quels groupes armés, puisque la sécurité de l'État a disparu dans cette région. C'est beaucoup plus la sécurité des terroirs qui a pratiquement vécu. Et donc, les gens estimaient que le M23 viendrait prendre les villages de tous les autres, sauf les leurs. Et donc, la plupart des gens ont fait des milices des villages, ainsi de suite. Et de ce point de vue, je suis d'accord avec le chef de l'État pour dire, nous avons commencé à remettre la sécurité de l'État. La sécurité des terroirs doit céder à la sécurité nationale, la sécurité de l'État. Maintenant, c'est celle-là qu'on veut voir, puisque là où il a demandé aux gens de se désolidariser des groupes armés, par exemple, je prends le cas de Wicha, le cas de Mbaou, de Mavivi, de Beni, les gens sont enlevés. Il y a plus de 800 personnes qui ont été enlevées par les NAL ou EDF. Ils sont à brousse. Ils n'attendent qu'une seule chose, pas se désolidariser, puisqu'ils sont otages et ils sont parfois entraînés. Ils attendent un commando de faire décès pour aller les libérer, ou alors ils attendent la frappe pour que le groupe ougandais soit dispersé, déstabilisé et que eux trouvent le moyen de se sauver. Il y a plus de 800 personnes, des prêtres, des médecins, des commerçants, des gens de toutes les catégories, des jeunes, une multitude de jeunes. D'autres ont été enlevés hier à Moukoko. On peut vérifier. Et donc tous ces gens qui sont enlevés, ils n'ont pas besoin de ces messages pour dire de solidarisez-vous, parce qu'ils sont en otage. Ils ont besoin de nos forces. Ce qu'on a fait à Rutshuru, les gens ont besoin qu'on le fasse dans la vallée de la Semliki pour libérer des Congolais qui sont en otage. Et donc, ils ne sont pas concernés par ce message. Mais j'ai dit, pour ce qui est de sécurité bricolée dans les terroirs, bon, le message du chef de l'État peut passer là où les gens ont fait la sécurité, puisque la M23 voulait venir prendre tout le pays et les gens ont organisé leur propre sécurité, que le chef de l'État amène la sécurité dans ces lieux et que ces gens cessent de le faire. Ils n'attendent que ça pour aller au champ, puisqu'ils ne savent pas aller au champ. Ils sont obligés de rejoindre des milices, puisque les gens cultivent dans cette région. C'est ça leur activité principale. Ils élèvent et ils sont envahis. Et donc, ils attendent que l'État joue son rôle. Et après, je crois que les choses pourront aller. Ceux qui pourront résister, l'État a le droit de les défaire militairement.
Nous souhaitons que cette guerre soit la dernière au Nord-Kivu, a affirmé le chef de l'État à l'étape de Rutshuru. Plusieurs analystes pensent que la paix durable dans cette partie du pays sera aussi fonction de la manière dont l'État congolais va gérer les acquis, n'est-ce pas, de la victoire des FARDC.
Oui, je crois que la sécurité fait partie des pouvoirs régaliens de l'État. Et donc, ce ne sont pas des choses à négocier. Et donc, si au niveau national, il y a une politique qui veut que nous soyons en sécurité, que ce soit la dernière guerre, je pense que ce sera la dernière guerre. Donc, comme c'est sorti de la bouche du commandant suprême de nos forces armées, et donc, je suis d'accord. Et donc, je pense qu'il a dit vrai. Il faudrait que ce soit la dernière, parce que c'est tout ce que demande tout Nord-Kivusien, c'est tout ce que demande tout Iturien, c'est ce que demande toute personne qui est pris de paix. Même au Katanga, on a besoin de ça, on n'a pas besoin de Bakatakatanga.
Les drones seront utilisés prochainement, selon Hervé Latsou, il est secrétaire général adjoint des Nations Unies. Et l'honorable Didier Moulusso pense que cette annonce-là pourrait avoir un effet dissuasif.
Oui, je crois que c'est important parce que c'est une nouvelle donne, parce que moi je ne vois pas comment militairement on pouvait défaire les FDLR, les NALU et DF, puisque on a défait le M23 puisqu'il avait occupé un espace identifiable et il se réclame être congolais, mais nous avons affaire à des groupes armés qui sont arrivés à Brazza au Cameroun. On les a pourchassés sous la FDL. Et ils ont traversé toute la province orientale, l'Équateur, ils sont arrivés à pied à face de nous ici et au Cameroun. Et donc, je semble croire que si on a terminé l'affaire de M23, balayé le M23, il sera très difficile pour le FDLR. Et je pense que les drones, c'est une nouvelle donne, mais je crois qu'à la fin de tout, la communauté internationale qui fait trop pression sur notre gouvernement sait que avec le FDLR, le M23, la prise finale, ce sera l'ouverture dans leur pays. Même le FNL burundais, la prise finale, c'est la démocratisation des États voisins, c'est le dialogue qui doit être lancé. Et là, je rejoins l'honorable Molicho.
Maître Jean-Maubert Nsenga, vous êtes avocat et analyste politique. Votre analyse à cet appel du chef de l'État à l'endroit des jeunes ainsi que des groupes armés.
Oui, merci. Mais si vous permettez, j'aimerais brosser rapidement quelques aspects de cette tournée que le chef de l'État a effectuée.
Je vous en prie.
À l'est, disons, au nord Kivu et dans la province dans la province orientale. J'ai été frappé par quelques aspects formels. D'abord, le moment choisi pour effectuer cette tournée. C'est vrai que le M23 a été défait. Les auditeurs de Radio Kaki se souviendront que la dernière fois que le chef de l'État avait été au Nord Kivu, c'était en avril 2012, donc il y a plus d'une année et demie. Et depuis, la population de Goma attendait, elle voyait Martin Kobler circuler, se rendre à Rutshuru. Il a été le premier à s'y rendre avec le gouverneur après la chute, après la défaite militaire de M23. Et les gens se demandaient, mais où se trouve le président? Donc finalement, il est venu et je pense que c'est une bonne chose. Et puis le trajet suivi, mon analyse est que c'est pour moi c'est vraiment du gaspillage. On peut bien dire qu'il est allé se rendre compte de l'état de la route, mais ce n'est pas la première fois, même pas la deuxième fois qu'il fait cette route. Et il n'avait pas besoin de se faire accompagner par je ne sais pas une centaine de véhicules et autant de militaires. Si vous faites le calcul très rapidement, pour autant de véhicules, autant de personnes qui l'ont accompagné, sans compter les ministres qui sont tous venus de Kinshasa, les députés qui étaient dans les hôtels ici à Goma et qui sont pour certains encore ici, vous allez avoir un chiffre qui peut-être permettre le retour de 100 000 déplacés dans leur milieu d'origine ou bien l'achat de je ne sais pas quel engin pour construire la route. L'autre aspect formel, c'est disons le choix des réunions publiques pour s'entretenir avec la population. On a eu l'impression que les chefs de l'État avaient peur de s'adresser à la masse, de faire des meetings populaires, peut-être à Goma, en craignant que les gens l'aient eu pour une déclaration, une affirmation ou une autre. Il a choisi donc à rassembler un certain groupe de personnes qui sont maîtrisables et qui peuvent peut-être applaudir à tout bout de champ. Et ça, je pense que c'est regrettable. Mais enfin, le conseil de ministres qui s'est tenu à Goma, un conseil d'un gouvernement qui est réputé démissionnaire parce qu'on nous a annoncé depuis plus d'un mois un nouveau gouvernement. On a demandé aux ministres qui sont là d'expédier les affaires courantes. Et ces ministres-là, on ne peut pas attendre des décisions importantes d'un tel gouvernement.
Oui, Maître Maubert Senga.
Oui.
Oui, vous venez de dire que à l'étape de Goma, on a sélectionné des gens qui devaient à qui les chefs de l'État devaient s'adresser. Vous étayez vos propos sur quels éléments?
Je ne dis pas qu'on a. J'ai dit que peut-être. De toute façon, il est plus facile de s'adresser à une audience de 1000 personnes ou de 1500 invités, parce que ces gens-là ont été invités. L'entrée n'était pas libre à quiconque passait par là. Donc c'est la personne qui les a invités a dû avoir ses propres critères. Ce qui est évident, c'est que moi j'étais hier devant l'hôtel New Riviera où se passait la réunion, à Goma par exemple, et j'ai vu pratiquement tous les membres de la société civile rester dehors, les principaux responsables des partis politiques, etc. et il y avait quelques 1500 ou 2000 personnes dans la salle. Sur les 5000 qu'on avait invités, alors qu'on connaissait la capacité d'accueil de cette salle.
Voilà, parlons maintenant des fonds.
Ça, ce n'est qu'un petit détail formel.
Oui, on parle maintenant des fonds. Et c'est par rapport à cet appel que le chef de l'État a lancé à l'endroit des jeunes ainsi que des groupes armés.
Oui, cet appel, je pense que ce n'est pas la première fois. L'appel est lancé depuis plusieurs années aux groupes armés. Le M23 lui-même, le Conseil de sécurité l'avait appelé plusieurs fois à déposer les armes. La CIRGL en avait fait autant, la SADEC. Ça a duré une année et demie qu'on appelait le M23 à déposer les armes. Le M23 ne l'a jamais fait. Il a fallu qu'on organise une offensive pour le convaincre, pour le faire déposer les armes par la force. Parmi les groupes armés dont on parle, il y en a, comme le professeur le disait, qui ont pris les armes pour se défendre à l'absence de l'armée et de la police, mais il y en a aussi qui ont pris les armes par banditisme, qui tuent, qui violent, qui commettent des crimes graves et qui ne vont pas entendre la raison, qui ne risquent pas un seul instant d'entendre l'appel du chef de l'État et déposer les armes comme des acolytes. Donc il faut nécessairement, comme le gouvernement l'a annoncé, sans discontinuer, engager une opération militaire ou des opérations militaires pour les amener à désarmer par la force. C'est la même chose pour les groupes armés étrangers comme les FDLR et les ADF Nalu. Ils ne vont pas vraiment... Il faut s'attendre, il faut croire au miracle pour penser que les FDLR et les ADF Nalu vont du jour au lendemain déposer les armes parce que le chef de l'État l'a dit sur un micro.
Oui, Maître Maubert, parmi ces groupes armés dont on parle, il y a les FDLR, les ADF Nalu, les FNL, des groupes armés étrangers dont le désarmement ainsi que la reddition dépendent d'abord, n'est-ce pas, de la volonté de leur pays d'origine.
Moi, je pense que ça, c'est tout un autre débat. Il est vrai que pour le cas des FDLR, par exemple, la situation au Rwanda et la façon dont la politique est gérée dans ce pays-là n'est pas en faveur d'un désarmement facile des FDLR. Parce que tout le monde, ils sont globalement traités de génocidaires, ce qui n'est pas vrai, tous les spécialistes le disent. Le climat politique, l'espace politique est, dit-on, fermé au Rwanda, donc même ceux qui voudraient aller créer un parti politique chez eux ne le peuvent pas. La justice œuvre à deux vitesses. Il y a une justice des vainqueurs, c'est-à-dire le régime qui est en place, et une justice des vaincus, c'est-à-dire l'ancien régime ou une catégorie de la population rwandaise. Et donc ça ne facilite pas les choses. Mais va-t-on attendre que le Rwanda revienne sur la raison pour que ce problème se termine? Parce que les gens qui sont en train d'être tués, violés, les gens dont les patrimoines sont pillés, ce sont des Congolais. Donc c'est un problème de sécurité nationale de la RDC et du peuple congolais avant d'être un problème du Rwanda. Et donc nous avons intérêt à mettre fin à ce groupe armé par un moyen ou un autre. La diplomatie doit continuer à agir pour faire pression sur le Rwanda afin de faire un effort dans son sens, peut-être dans le sens de ce que avait été la proposition du président Kikwete. Mais à notre niveau, au niveau de la RDC, les autorités ne peuvent pas se permettre de s'endormir en attendant un éventuel éveil du Rwanda.
Le président Joseph Kabila, en séjour au Nord Kivu depuis ce week-end, s'est adressé hier dimanche à la population de Goma. Devant des milliers de personnes, le chef de l'État a abordé des questions sécuritaires et des développements de la province. Le compte-rendu avec Denise Lukeso.
Fini la guerre au Nord Kivu. L'heure est à la relance des projets de développement dans la province du Nord Kivu, a dit Joseph Kabila. Des projets qui ont été handicapés, selon son propre terme, par la guerre. Dans son adresse d'environ une heure, le président a aussi annoncé les changements dans les services publics. Les changements qui concernent les responsables des services étatiques impliquent aussi les changements de mentalité. La population de Goma, victime des différentes guerres au Nord Kivu, a accueilli ces messages avec joie. Goma, Denise Luquet sur Radio Capi.
Didier Moulicho, je rappelle que vous êtes député national et secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle. Nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Bukavu au sud Kivu.
Vous provenez du Sud-Kivu. L'appel du président Kabila demanda aux jeunes de quitter les groupes armés et patriotiques, mais le grand problème est qu'ils peuvent quitter aujourd'hui et rentrer demain à cause du chômage évalué à plus de 95% en RDC. L'important, c'est de créer des emplois en faveur de la jeunesse en guise d'éviter la mise en scène de la démobilisation qui avait échoué.
Votre réaction?
Je pense qu'il a pleinement raison et c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Maintenant que la guerre est finie, nous allons nous lancer dans le programme de développement. Et c'était ça l'annonce aussi du chef de l'État. Vous savez que la région du Kivu, c'est une région à vocation agricole et pastorale. Et je pense que comme la guerre est terminée, la région va relancer son économie qui est basée sur l'agriculture et l'élevage.
Voilà. Un programme minimum d'extrême urgence a été adopté par le Conseil des ministres pour soulager ces entités sinistrées et couvre les secteurs suivants. Questions humanitaires et accompagnement des femmes et des enfants victimes directes des conflits armés, enseignement primaire, secondaire et professionnel, santé, agriculture et développement rural et ainsi de suite. C'est un programme très ambitieux. Vous pensez qu'il sera exécuté?
Je pense que les choses se feront progressivement, parce que vous savez, quand vous venez d'une zone, d'une situation de guerre, on s'attelle d'abord à se faire des actions urgentes. Des actions urgentes dans le sens de, il faut reclasser les populations qui ont été déplacées, il faut remettre en place les écoles, il faut remettre en place les structures de santé, et progressivement aller vers la reconstruction. Et la reconstruction de cette région, c'est essentiellement l'agriculture, l'élevage, comme je l'ai dit tout à l'heure, avant de penser au développement à long terme. Je pense que les choses devront se faire progressivement. Maintenant, c'est comment reclasser les populations qui ont été déplacées. Et dans le milieu, on reclasse, il y a des enfants qu'il faut scolariser, il y a des enfants qu'il faut soigner, des mamans qu'il faut soigner, et remettre en place le système sanitaire. Et penser à donner du travail aux gens, et le travail, c'est l'agriculture et l'élevage, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Nous venons de suivre Amos Bissimwa de Bukavu, au sud Kivu, qui pense que le chef de l'État initie des projets qui ne réalisent pas.
Dire qu'il initie des projets qui ne réalisent pas, je ne pense pas qu'il a raison, dans le sens qu'on ne peut pas faire du développement dans une région qui est en proie à la guerre. Le chef de l'État avait lancé le programme après la réunion sur la paix qui s'est tenue à Goma. Le chef de l'État avait lancé le programme Starek. Et ce programme Starek avait pour objectif de relancer le développement dans cette région. Mais on ne peut pas faire du développement quand il y a la guerre.
Où en est-on avec ce programme Starek aujourd'hui?
Mais le problème, c'est que on ne pouvait pas faire le programme Starek dans une région en proie à la guerre. Maintenant que la guerre est en train de se terminer, et je pense que les choses ne pourront aller que dans le sens souhaité par le chef de l'État, reconstruction et puis le développement.
Et comment il va aboutir ce processus de développement lorsque là c'est seulement des annonces, mais il n'y a pas de données chiffrées? Ça va se passer comment?
Bon, moi je pense que les structures qui doivent recueillir les données chiffrées existent et seront mises en place. Parce que vous savez que le ministère de l'Agriculture, par exemple, le ministère de Développement Rural ont de responsables au niveau de la base qui ont des éléments pour faire un programme de développement. Et Starek a suffisamment d'éléments pour relancer les projets qui étaient mis en chantier et qui n'ont pas pu aboutir du fait qu'il y avait cette nouvelle guerre qui a commencé.
Professeur Hassan Mouaka, je rappelle que vous êtes député national de l'opposition et cadre du parti politique DCFN. Nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient des Kananga au Kasai occidental.
Maître Adrien Ilobakwei Pero à Kananga, au Kasai occidental. Je salue la tournée du chef de l'État à l'est du pays, car elle vient à point nommé. Néanmoins, il serait souhaitable de passer directement aux actes pour redonner de la confiance à cette population meurtrie de l'est, étant donné que celle-ci n'a plus besoin de discours creux.
il faut aller au-delà des discours, hein, passer aux choses palpables.
Oui, je crois que Maître Pero Adrien a totalement raison. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'annonces. Évidemment, le chef de l'État, c'est une institution. J'appartiens à une autre. Il est élu au suffrage universel direct. Je suis aussi élu à ma manière. Mais je pense que c'est la population qui a le meilleur jugement, puisque cette population qui a voté pour le chef de l'État moyennant un programme qui se résume par des promesses, notamment les 5 chantiers récemment, la révolution de la modernité. Donc la population continue à attendre et le chef de l'État a clairement dit que pour nous qui sommes de l'opposition, il va nous a levé les discours à la bouche, puisqu'il va tout faire. Et donc, moi, je suis personnellement content qu'il ait annoncé pour la deuxième fois qu'il va faire. Et s'il peut faire, je crois que c'est tout ce qu'une opposition républicaine constitutionnelle cherche, c'est qu'il puisse réaliser ce qu'il attend, notamment, comme nous l'avons dit, engager d'abord l'armée nationale et tous les services dans la sécurisation. Parce que la sécurisation n'est pas là. On ne doit pas mettre la charrue devant le bœuf. Le Nord Kivu n'est pas encore à paix. Même Rutshuru a encore des Nyatura, des Maïmaï et autres, les uns Chétani, les autres Malaïka. Et donc, je crois qu'il y a encore du travail sécuritaire à faire. Même à Rutshuru, à Nyiragongo, partout, il y a encore du travail. Même à Goma, il y a encore du travail sécuritaire à faire. Et je crois que ça, c'est la priorité. On n'a pas encore fini. On doit sécuriser le Nord Kivu n'est pas encore en sécurité. On doit bien le retenir, que ce soit à Lubero, que ce soit à Walikale, où la population souffre excessivement, que ce soit à Masisi, que ce soit à Beni. La population souffre. On a besoin d'abord de la sécurité. La première demande de la population, c'est pas qu'on achète des houes à Kinshasa à $3 et qu'on aille les distribuer à $15 au Nord Kivu. Non. Ce que le Nord Kivusien demande, c'est d'abord la sécurité qui n'est pas encore là. Nous avons gagné une seule bataille sur plusieurs batailles qu'il faut engager. Et donc les choses doivent être claires. Et là, je ne suis pas du tout d'accord avec le gouvernement. Ils ne doivent pas aller faire un plat d'urgence pour bouffer de l'argent. Ils doivent donner l'argent aux services de sécurité. Ils doivent donner de l'argent à l'armée pour que l'on gagne les batailles suivantes. Il peut y en avoir encore une centaine. Nous n'avons gagné qu'une seule. Maintenant, les priorités du Nord Kivu demeure l'agriculture, l'élevage. Mais on ne doit pas oublier l'artisanat, on ne doit pas oublier le commerce, et on ne doit pas oublier beaucoup d'autres initiatives, puisqu'on est dans une province très dynamique, qui n'a que besoin de la paix pour décoller. Et les différentes populations peuvent être mieux soulagées, pas puisqu'on a débloqué de l'argent à Kinshasa, dans lequel on a bouffé des commissions, et qu'on a bouffé des commissions même dans les transports pour aller distribuer des bidons vides qu'on a achetés à très cher. La population peut être soulagée si on mécanise, par exemple, les enseignants. Qu'on les mécanise et qu'on paye, comme ça on décharge les parents des paiements, des frais de motivation. Et on aura réalisé une des grandes promesses, la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire, par exemple. Puisqu'elle se résume juste par le paiement de l'enseignant. Puisque les parents souffrent. Puisque l'enseignant n'est pas payé, il y a beaucoup d'enseignants qui sont soit non payés, ils sortent comme ça sur les listings NP, ou nouvelle unité, c'est-à-dire ils ne sont pas connus. Et donc, il suffit juste de dire tout leur programme là, ils n'ont qu'à les résumer par le paiement des enseignants. Merci. Comme ça, les enseignants qui payent cher, les parents qui payent cher les enseignants peuvent s'occuper d'autres choses, puisque le Nord Kivu a des gens qui travaillent et qui n'ont pas besoin vraiment des aides détournées.
Merci, Maître Morbert Nsenga. Je rappelle que vous êtes avocat et analyste politique. Nous avons la réaction de Papi Kassema depuis Kinshasa, qui dit « La tournée du chef de l'État à l'est du pays est une bonne chose, car étant père de tous les Congolais. Néanmoins, le mieux serait d'identifier et de combattre les causes de ces guerres pour qu'elles ne se répètent plus sous une autre forme. »
Oui, l'auditeur a raison. Le chef de l'État est revenu dans son allocution sur les erreurs qui auraient été commises en 2009 en disant qu'il ne fallait pas qu'on commette les mêmes erreurs. Mais mon impression, c'est que peut-être lui ou le gouvernement dans son ensemble n'ont vraiment rien compris des erreurs qu'ils ont commises par le passé. Parce que quelles sont ces erreurs justement? L'intégration cavalière de tous les miliciens dans l'armée. On est en train de refaire la même chose aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement du M23, il s'agit également d'autres milices qui pullulent dans la région, qu'on regroupe et qu'on veut intégrer systématiquement dans l'armée, comme si cela résolvait quelques problèmes que ce soit. C'était la protection, vous vous rappelez, tout le monde, tous les Congolais se rappellent la protection à corps et à cri du président de la République envers Bosco Ntaganda, qui était poursuivi par la CPI. Eh bien, ce monsieur a attendu 3 ans, on le protégeait au nom soi-disant de la paix, et après 3 ans, cela ne l'a pas empêché de retourner à la brousse et de faire cette guerre qu'on est en train de dire qu'on a fini maintenant. Et il ne faut pas qu'à nouveau on laisse un Makenga, un Laurent Kunda et les autres dans la rue comme ça, ou de l'autre côté au Rwanda, et s'imaginer que dans les 2 ans, on n'aura pas une autre guerre. L'autre problème qu'on a commis, c'est justement de s'attaquer aux questions superficielles, comme le professeur le disait. On va distribuer des bidons, des houes, on a amené des motoculteurs et autres, et on oublie les questions essentielles comme la prise en charge des militaires et des policiers, y compris dans la ville de Goma. L'insécurité règne, y compris dans cette ville. Donc la guerre n'est pas terminée, c'est une bonne opportunité pour y mettre fin définitivement, si on prend vraiment les bonnes résolutions. Sinon, on va se retrouver en 2016 ou en 2015 en train encore de justifier pourquoi les promesses qui ont été faites hier ne sont pas toujours réalisées. Parce que la guerre devient finalement un bon prétexte pour ne rien réaliser et venir 3 ans plus tard pour dire « Voilà, nous nous occupions de la guerre et c'est pour cela que nous n'avons pas, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de route, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas parce qu'il y avait la guerre. »
Oui, le professeur Arsène Mouaka a dit que la priorité des priorités, c'est de consolider la paix et la sécurité.
Oui, avant de consolider, il faut d'abord l'amener. Il ne faut pas qu'on mente à la population, il n'y a pas la paix au Nord-Kivu. Le professeur l'a souligné, je le confirme, il n'y a pas la paix dans un seul territoire du Nord-Kivu. C'est vrai que le M23 a été défait, c'était la plus grande menace, il occupait 2 territoires pratiquement, ou la moitié de 2 territoires. C'est une bonne chose, tout le monde s'en réjouit, mais il y a encore des miliciens à Walikale, à Masisi, à Beni. Il y a 800 personnes qui sont prises en otage par la JADF Nalu dans les territoires de Beni. Il y a l'insécurité dans le Lubero, il y a l'insécurité, y compris ici dans la ville de Goma. Et donc, il faut d'abord ramener la paix et ensuite la consolider. Et la consolidation, ce n'est pas la distribution de où. C'est d'abord la justice, par exemple, contre ces criminels. C'est le refus systématique d'intégrer quelques miliciens que ce soit dans l'armée. C'est la sanction au niveau des militaires FARDC qui ont commis des bévues. On a parlé, le chef de l'État a parlé du changement de commandement, mais on a changé M. Amissi Kumba. Ça faisait combien de temps que la société civile, que les gens criaient ici pour dire « ce monsieur est en train de faire des choses pas correctes, mettez-les à côté ». Et il a fallu un rapport du groupe d'experts pour qu'on le mette de côté. Mais jusque-là, il n'a même pas été jugé. Et alors, qu'est-ce qu'on a résolu?
Maître Morbert, nous sommes presque à la fin de l'émission. Je vais aussi vous demander de conclure.
Oui, donc la conclusion que je peux tirer à mon niveau, c'est de dire oui, le chef de l'État a bien fait de faire cette tournée. Tout le monde l'attendait, même s'il y a eu beaucoup de gaspillage que, à mon avis, on aurait pu éviter. Mais maintenant, il ne faut pas qu'on se leurre. La guerre n'est pas terminée, c'est une bataille qui a été gagnée. Il faut maintenant gagner la paix et ensuite la consolider par la manière dont on l'a dit pour que demain, après demain, cela ne se répète pas.
Merci, honorable Didier Molisso. On n'a pas tiré les leçons du passé. Nous sommes dans un processus d'intégration des anciens miliciens, alors que c'est des facteurs, n'est-ce pas, qui ont été à la base de la guerre que nous venons, de vivre dans l'est de la RDC.
Moi, je pense que Maître, quand il affirme ça, il n'a pas raison, parce que qu'est-ce qui bloque la signature ou la clôture du processus de Kampala? C'est parce que le gouvernement de la République démocratique du Congo a tiré les leçons du passé. Je suis tout à fait d'accord avec eux quand ils affirment que la priorité, c'est la sécurité. Et je crois que le président de la République lui-même l'a affirmé en disant que nous devons travailler travailler pour consolider la paix et nous préparer à une prochaine guerre. Il a annoncé la montée en puissance de notre armée. C'est ça qui va ramener la paix au niveau du pays. Je pense que pour moi, la tournée du chef de l'État doit être vue comme un symbole de l'affirmation de l'autorité de l'État dans cette partie de la République qui était en proie à la guerre.
Merci, je considère ça comme votre conclusion. Professeur Hassel Mouaka, votre conclusion?
Oui, je voudrais me joindre à mon collègue aîné Molicho pour dire que le chef de l'État a très bien fait de faire sa tournée. Ça lui a permis de juger les choses. Évidemment, il a fait des promesses. On attend et on le félicite aussi pour ça, pour ce qu'il veut faire. Mais au-delà de toute chose, la grande demande au Nord Kivu, au Sud Kivu, à Nituri et même dans la province orientale, c'est la sécurité. Les gens veulent être sécurisés. S'il fait ça, ça suffit.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe Dialogue entre Congolais, Alain Irung, Kéline Kouté, Samuel Kachak, sous la supervision de Martin Sebou-Djangwe. Sylvain Matoundou était à la technique devant ses micros. Guy Maté, bonne suite de programme sur Radio Okapi.